Ce hors-série vous est présenté par Toyota, partenaire mobilité des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Kalinsa, vous grandissez avec vos frères et vos sœurs d'armes au sein de cet internat.
Allez.
Ça fait quasiment 7 ans, on nous dit Paris, 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 parce que les Jeux, c'est quelque chose de dingue.
Faire les Jeux Olympiques, intégrer l'équipe de France, ce sont des choses vraiment qui leur tiennent à cœur.
Le Graal, ça reste les Jeux Olympiques, donc à chaque fois, vous voulez la marche au-dessus.
C'est une forte responsabilité et on se doit de représenter au mieux notre nation.
Deux destins pour un rêve. Le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'INSEP.
Magnifique terrain que des fois on arrive à piquer aussi. T'as un terrain de ring hockey, c'est du hockey sur gazon.
Notre visite de l'INSEP aux côtés de Cécilia Berder et de Jonathan Hiverna se poursuit.
Et juste à côté, t'as un terrain de foot tout à fait classique.
Dans ce lieu mythique, situé au cœur du Bois de Vincennes à Paris, près de 800 sportifs de haut niveau s'entraînent de manière intense chaque jour pour préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pas moins de 28 disciplines sportives y sont pratiquées. Cécilia, championne d'escrime, y vient tous les jours depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, elle sert de guide à Jonathan Hiverna, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, qui vit à Toulouse et qui découvre chaque nouvel espace sportif avec des étoiles dans les yeux.
Et tu vois, c'est maintenant que je me rends compte que, comme à Rio au village, je le voyais avec mes yeux de valide. Et après, j'avais fait le village avec un athlète paralympique et je disais, attends, mais c'est pas
ça
du
montait,
tout adapté.
Ça montait, ça descendait comme jamais. Oui, ouais, c'était pas cool. Totalement full access par rapport surtout au dénivelé. Ouais. C'était ça en fait qui était.
Tu vois, ça fait plus de 10 ans que je suis ici, c'est la première fois que je me rends compte que les trottoirs ils sont un peu hauts.
Mais vous avez une grande mobilité, Jonathan, avec votre fauteuil quand même. Hein.
Au-delà de la grosse mobilité, donc je fais partie des personnes en situation de handicap qui sont quand même atteintes des 4 membres, donc qui font partie de la famille des plus touchés. Mais oui, à travers peut-être le sport et finalement le sport de haut niveau, j'ai pu développer une certaine forme et une certaine autonomie avec aussi mon outil de mobilité qui est un fauteuil manuel permanent. Donc c'est vrai que oui, je suis très à l'aise maintenant, mais si on en revient sur les premières années, j'étais incapable, j'ai une maladie qui est très fatigable à l'effort, donc le moindre effort pour moi c'était insurmontable. Donc finalement, la seule limite que j'ai envie de dire, c'est nous-mêmes qui nous la fixons. Et finalement, si on se donne toujours un plus chaque jour, on se renforce chaque jour pour qu'on soit un peu plus en forme. Et si on se respecte, finalement, on respecte notre corps et la possibilité de pouvoir réaliser des choses aussi.
Le rugby fauteuil est un sport unique qui mélange plusieurs disciplines. Il se joue à deux équipes de 4 joueurs sur un terrain de basket avec un ballon de volley. L'objectif est d'emmener le ballon dans les buts adverses et pour cela, tous les coups sont permis. Les joueurs se rentrent dedans avec leur fauteuil, avec force pour se faire tomber. Du rugby, donc, il n'en reste plus que le nom, puisque ce sport collectif ressemble finalement plus à du football américain.
Épisode 2. Vers le podium paralympique.
Quand j'avais 19 ans, c'est le Stade Toulousain qui est venu à notre rencontre faire une démonstration initiation de rugby fauteuil. Mais pour moi, l'aventure, elle a commencé là et je me rappellerai toujours comme cette affiche m'avait beaucoup impressionné par l'appellation rugby fauteuil. J'étais très intrigué à l'idée de me dire comment on peut faire du rugby en fauteuil. Et je me souviendrai aussi d'une chose, c'est que plus j'avançais finalement ce gymnase et plus j'entendais les bruits sourds, assourdissants et clinquants de ces fauteuils s'entrechoquer alors que je ne voyais rien. J'entendais le bruit de ces fauteuils s'entrechoquer et quand j'ai vraiment vu le sport en lui-même, j'ai vu des athlètes engagés, j'ai vu des sportifs avant tout et pas spécialement des personnes en situation de handicap qui jouent en fauteuil. Finalement, j'ai retrouvé bien plus qu'un club, j'ai trouvé mes amis, ma famille, j'ai trouvé beaucoup de choses et de valeurs, d'authenticité.
Et en fait, je m'y suis mis et je ne suis plus jamais reparti, oui. Je suis né et j'ai vécu à Figeac, qui est dans le Lot, voilà, qui est dans la région Occitanie. J'ai commencé à découvrir différents sports. J'ai commencé par le tennis. Ensuite, j'ai fait une initiation au rugby et j'ai fait du foot aussi, avant que les premiers symptômes de la maladie apparaissent. Entre l'âge de 9 ans et 10 ans, ça se caractérisait par des troubles de l'équilibre, des troubles de la concentration, une petite déformation au pied qui était minime au départ, qui ne faisait qu'évoluer à travers le temps. Et on comprenait pas, j'étais très fatigué en fin de journée, donc j'étais très fatigué à l'effort. Donc mes parents ont voulu voir différents médecins. Et à l'issue de 3 ans d'examen, le diagnostic tombe et je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth type 1A. Et en fait, la caractéristique de cette maladie, c'est qu'en fait, elle touche la gaine des nerfs de la moelle épinière jusqu'aux extrémités du corps. Donc, vous imaginez vraiment que soit en fait, l'information a vraiment du mal à passer. Donc, je suis obligé de forcer mon organisme pour que je puisse émaner tel geste ou telle action que dans la vie au quotidien, voire une abolition totale de la conduction nerveuse. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai pas de sensibilité ni la fonction de pouvoir demander que ce muscle marche en fait.
Voilà, tu vois, Jonathan, on est dans la Almegro. C'est là où tous les athlètes, donc athlètes de l'athlétisme, s'entraînent en intérieur. T'as un anneau qui fait à peu près 360 mètres. C'est grand comme 2 terrains de foot. C'est immense. T'as la perche qui peut s'entraîner, t'as le saut en longueur. Et puis même si on continue, tu vois, je vais te montrer, il y a même une petite surprise, un petit vélodrome caché. Caché, mais pas tant que ça. Mais ouais, tu sais, cycliste sur piste.
Ouais, d'accord, cycliste.
Et t'as même une salle de musculation encore derrière.
12 minutes.
Et donc là, on marche sur la piste, hein. Et moi, j'aime pas courir, mais là, j'ai envie de courir.
on sent le rebond. C'est vrai que... Alors, on aime courir, mais quand, je vous assure que si les athlètes se mettent à courir, on va clairement se mettre sur le côté parce qu'ils vont tellement vite que quand nous, on court, on a l'impression d'être des patates, quoi. Des vrais phoques qui essayent de courir, alors qu'eux, ils courent pas, ils volent. Ils ont une qualité de pied que nous, on n'a pas, de rebond. Et même dans l'odeur, je trouve que ça sent le tartan, ça sent le bois qui se mélange. Enfin, pour moi, c'est une odeur assez familière, ouais. C'est cool. Hein.
J'ai été mal marchand de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Et à 19 ans, j'ai perdu l'usage total de mes jambes, du coup. Et avec aussi, petit à petit, donc à l'âge de 19 ans, une dysfonction motrice pareille au niveau de mes mains, où j'ai pas du tout de motricité ni de sensibilité.
Donc, vous êtes en fauteuil depuis l'âge de 19 ans.
Exactement, oui. Je m'y attendais indirectement dans le coin de ma tête, où les médecins, en toute transparence, ne m'avaient pas donné une espérance de vie très très grande, dans le sens où à 21 ans, j'aurais dû être sur un lit médicalisé, tout paralysé de tous mes membres. Et en fait, indirectement, je me suis jamais laissé abattre, bien au contraire. Je me suis dit, comment je peux compenser, comment je peux réaliser, comment je peux continuer ma vie comme je la vis, comme j'ai envie de la voir. Et j'ai suivi toute une séance rééducative très intense au centre Roctaya d'Aoche. Donc c'est là où il y a eu la première fois où je me suis détaché du foyer familial, donc confronté à la vie en autonomie. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'une rééducation intensive là-bas dans ce centre de rééducation, tout en suivant une scolarité conventionnelle aussi, adaptée, et en faisant aussi du sport-études, parce que il était très important pour moi et impossible de me dire que c'était impossible que je ne retrouve pas pour pouvoir refaire du sport. Parce que depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, j'adorais ça. Je prenais énormément plaisir et j'étais un réel compétiteur déjà dans l'âme en tout cas. Donc je voulais retrouver ça, je voulais ressentir ces émotions-là. Je savais que ça pouvait que être bénéfique pour moi, même si j'avais cette maladie.
Là, on est dans la Almegro. On va assister à un entraînement d'athlètes paralympiques, comme vous. Comment vous vous entraînez? C'est-à-dire que c'est quoi votre vie là? Vous êtes en train de préparer les JO. C'est quoi votre vie au quotidien en ce moment pour préparer votre corps?
Aujourd'hui, je m'entraîne deux fois par jour avec une partie le matin où je m'entraîne donc 2 heures sur le plan du renforcement musculaire et de la musculation. Et ensuite, l'après-midi...
Tout seul?
Non, avec un coach, donc un prépa physique individualisé ou collectif avec mes coéquipiers de l'équipe de France ou également de Toulouse. Donc ça, c'est super important. Et la deuxième partie, en général, donc, c'est une séance soit collective ou technique. La séance collective, donc, c'est à travers des exercices très spécifiques du rugby fauteuil ou technique, donc, c'est-à-dire vraiment de la gestuelle avec le fauteuil. Donc c'est de la, on appelle ça des skills, de la mobilité avec le fauteuil qui va faire la différence sur le geste, de pouvoir le répéter à chaque fois pour qu'il soit le plus optimal, le plus insouciant possible, mais aussi finalement le plus performant à chaque fois pour exercer et se mouvoir pour faire déjouer l'adversaire. Ouais.
Cette salle-là, Jonathan, c'est la salle de réathlé. Donc c'est l'endroit où quand tu reviens de blessure, entre le retour de blessure et le retour sur la compétition et les pistes, bah, tu reviens ici et là ils te refont un corps. C'est des experts dans leur domaine de réathlétisation, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils savent ce que c'est les corps humains, ils savent comment ça fonctionne, ils connaissent les spécificités en fonction des sports. Donc on a de la chance de les avoir parce que c'est vraiment des experts.
Comment vous, en tant qu'athlète valide, quel regard vous portez justement sur ces athlètes qui ne sont pas paralympiques et qui rusent tous les jours pour pallier à leur handicap?
J'ai eu la chance de pouvoir faire des stages en escrime, en e-sport, et je reconnais que j'avais des idées reçues au début de me dire « je peux pas y aller, il faut que j'aille doucement » ou « je peux peut-être leur faire mal ». Et je vous assure qu'au bout d'une minute, ils ont une telle vélocité, une telle force de caractère, une telle abnégation, une telle concentration. Je dis « ok mon gars, ok, on joue dans la même cour en fait, c'est moi qui étais bête ». Et c'est pareil pour l'escrime en e-sport, c'est pareil pour le rugby de fauteuil, mais c'est pareil pour tous les sports paralympiques. Ces idées reçues qu'on peut avoir, le fait de côtoyer des athlètes paralympiques, bah, au bout de 30 secondes, je vous assure que ça s'en va. Et que, évidemment, que ceux qui sont amputés ou qui se trouvent des astuces, mais ils sont d'une ingéniosité incroyable, c'est évidemment inspirant pour ma pratique. À chaque fois que j'ai fait des stages en escrime fauteuil, à chaque fois, je revenais dans ma catégorie en me disant, OK, alors j'ai vu lui, comment il faisait sa parade riposte, OK, il faisait comme ça, il faisait cette feinte-là, OK, bah, moi, je vais faire exactement. Ce que je peux en tout cas essayer de copier pour pouvoir ramener ça dans ma pratique. Et le rugby fauteuil, pour avoir eu la chance de voir quelques matchs, le caractère qu'ils ont, quoi, l'impact qu'ils y mettent, cette agressivité tout en étant malicieux, parce qu'il faut trouver la feinte, il faut trouver l'endroit, il faut trouver le timing. Et ben oui, pour un escrimeur, être agressif et être malicieux, évidemment ça parle, donc c'est évidemment des sources d'inspiration incroyables.
On va peut-être aller voir l'entraînement. Vous pensez que ça a commencé, le coach est arrivé?
Ce que je veux, c'est que quand vous soyez, quand vous êtes dans la dernière ligne droite, que vous conserviez la bonne intention du placement. Alors, c'est pas placement de sprint, attention. Ça ressemble plus à un 2-4, tu vois, fin de 2, fin de 4. Ok?
Alors, je veux bien que vous vous présentiez.
Alors, Dimitri Domounia, je suis entraîneur sur le pôle athlétisme à l'INSEP et responsable de la structure, responsable du pôle athlète. J'entraîne des athlètes en préparation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques sur le sprint du 100 ou 400 mètres.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement les athlètes para que vous avez ce matin?
Alors, Timothée Adolphe, qui est médaillé aux Jeux de Tokyo.
Qui est malvoyant?
Il est non-voyant. Il est catégorie T11, donc c'est complètement non-voyant. Il est déficient visuel. Et donc, Timothée a besoin d'assistance pour l'entraînement, que ce soit en muscu. Alors, il est super autonome, hein, il se démerde, mais il a besoin d'assistance. Il ne peut pas courir seul, donc il est accompagné d'un guide. Ils sont tous les deux liés par un lien qui lui permet de courir, que ce soit en ligne droite ou en virage, à pleine vitesse.
Bonjour, monsieur.
Rappelle-moi ton prénom.
Jonathan,
donc qui est le directeur.
Bon, ça
dépend.
Ouais.
Ça va.
Ouais,
Tim, fais gaffe parce qu'il y a Jimmy et Thomas qui courent vite là. Donc t'es au couloir. Tu risques de décoller. Hein. Donc fais gaffe, pars pas tout seul quand t'as fini, ok?
Ok.
On vous interrompt, mais vous étiez en train de courir. Racontez-moi un peu.
Je suis en train de m'échauffer. Moi, je reviens de blessure. Je me suis fait une petite entorse à la cheville au début du mois.
Quel est l'intérêt pour vous de participer à un entraînement avec des valides?
En fait, nous, on n'est pas dans ce truc-là de ce que t'es valide, de ce que t'es para. Est-ce que on fait tous le même sport et on a tous des objectifs qui est d'aller chercher des médailles au jeu.
Et Jonathan, vous l'avez vu courir, qu'est-ce que,
qu'est-ce que vous en pensez ? Timothée, moi je pense qu'il se prépare pour aller performer comme il se doit en France. Je ne sais pas si tu as l'ambition de continuer après, mais en tout cas, moi j'ai un profond respect et tu es une source d'inspiration aussi pour tous les para-athlètes ici, quoi.
Merci. Bah déjà, moi je suis focus sur Paris. Ça fait déjà quasiment 7 ans, on nous dit Paris, Paris, Paris. On n'avait même pas encore passé Tokyo, qu'on nous parlait plus de Paris que de Tokyo. C'est un peu l'année de ma carrière et je pense pour beaucoup, ça sera l'année de nos carrières. Parce que les Jeux, c'est quelque chose de dingue, mais pouvoir le faire à domicile devant notre public, c'est juste hors du commun et c'est juste extraordinaire. Et d'autant plus que pour les Paralympiques, c'est les premiers de l'histoire.
Jonathan, il dit que vous êtes une source d'inspiration. Est-ce qu'il y a une communauté handisport forte ? Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez aussi, le côté communautaire, quelle que soit la discipline et quels que soient les handicaps ?
Alors, je pense que ça évolue pas mal. Avant, on était beaucoup sur chacun son sport et voire même chacun son handicap. Il y avait... Dans certains sports, on peut voir qu'à certains moments, il y a des clans, etc. Et ça, c'est une réalité. C'est pas toujours très bien, hyper bien perçu d'en parler, mais il faut aussi mettre les mots sur ce qui se passe et sur une réalité. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Allez voir du rugby fauteuil, vous verrez que ça n'en est pas moins physique, et même si c'est très différent du rugby classique, ça en reste quelque chose de très spectaculaire, donc faut aller le découvrir en fait, tout simplement. En France, il y a une méconnaissance au niveau du parasport. Je pense que les Jeux peuvent être une opportunité pour le public de découvrir toutes ces disciplines et toutes ces pratiques différentes.
Merci beaucoup, je vais vous laisser retourner à votre entraînement.
Ouais, merci.
Merci d'avoir pris le temps, Timothée.
Entraîne-toi bien.
Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi alors que qu'on vous diagnostique une maladie, que les médecins vous condamnent, vous dites non ? Pourquoi ?
Pourquoi je me bats pour deux choses ? La première, c'est une revanche sur la vie, parce qu'il y a eu aussi un contexte familial assez dur où mon papa est tombé dans l'alcoolisme, mes parents aussi ont divorcé. Ça a été une réelle épreuve pour moi parce que j'ai aussi un petit frère. Donc j'ai eu ce côté que je devais prendre un peu paternel, de prendre sous mon épaule mon petit frère. Donc c'est vrai que la réelle motivation, c'est que je veux rendre fier vraiment autant à ma maman que mon petit frère, par-dessus tout, qui ont été toujours là pour m'épauler et réaliser mes rêves.
Dans le prochain épisode, nous poursuivons notre visite de l'INSEP en visitant la salle Sabre, où Cécilia Berder s'entraîne chaque jour pour décrocher des médailles olympiques.